que vous avez entendu dans la vie finale. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. On voit pourtant une histoire qui commence bien. Le maître envoie quérir des invités pour la noce. Il se réjouit et a tout préparé dans sa volonté de faire partager sa joie à ceux qu'il considère comme ses amis. Il ne me demande rien qu'un peu de disponibilité et de présence amicale. Cela lui est refusé. Les invités sont tellement occupés. Alors il envoie chercher tous ceux que l'on pourra trouver, encore et encore. Il serait dommage que tant d'attention, tant d'amour retombe à vide. Nous avons bien entendu, afin que ma maison soit remplie. Il a prévu en abondance, voire en surabondance. Il s'agit vraiment d'un maître très généreux. Tous ceux que l'on a pu trouver, pauvres, boiteux et estropiés, par les chemins et les campagnes, sont réunis dans la salle de banquet. Mais ensuite, l'histoire se gâte, car une fois la salle pleine, le maître dit qu'aucun de ceux qui ont refusé ne profiteront du festin. On se dit comment ce Dieu d'amour auquel je crois, ce Dieu lent à la colère et prompt à la miséricorde que nous montre Jésus, peut-il être représenté ainsi dans ce récit? Toutes les religions ont prévu des récompenses pour leurs fidèles et des punitions pour les étrangers. Elles se chargent trop souvent de mettre ces punitions en œuvre elles-mêmes, des fois que leur Dieu tarde trop. Mais Jésus vient justement nous parler d'un Dieu différent. Il nous décrit un Dieu qui appelle d'abord ceux qui le connaissent, qu'il considère, lui, comme ses amis, les brebis perdues d'Israël. Mais il appelle ensuite tout le monde dans son alliance. Autre mot pour noce. Le Dieu de Jésus-Christ, comme un père, aime et donne gratuitement. Personne n'est exclu de son amour. Sauf, attention, et c'est bien le sujet de ce texte, à s'en exclure soi-même. Voici donc tous ceux qui ont accepté cette invitation réunis, et les autres dehors, exclus. Moi, malheureusement, j'entends bien cela pour moi. Cela veut dire que malgré tous les efforts de Dieu pour venir me chercher, je n'ai pas vraiment compris la valeur du cadeau qui m'est fait. Je n'ai pas répondu à son appel avec les moyens que j'avais à ma disposition. Je suis pauvre en disponibilité, estropié de la vie, aveuglé par le quotidien, perdu dans les chemins de mes activités. C'est une faute envers celui qui m'invite, mais aussi un manque de considération envers ceux que j'aurais pu rejoindre. C'est moi qui m'exclus seul de la lumière et de la chaleur de la fête. Je ne profite pas de la joie, je n'entre pas dans la lumière. C'est alors seulement que je me rends compte de ce que j'ai perdu. Il ne me reste que les pleurs et les grincements de dents, comme il est dit au verset 28 du chapitre qui précède. Nous voici une nouvelle fois en Assemblée Générale. Presque 500 familles sur la liste des personnes qui se recommandent de notre Église. 177 inscrites sur la liste des électeurs. Une soixantaine présentes ou représentées, comme chaque année. Pourtant, toutes et tous sont invités. Ecclésia, Église, veut dire communauté. Pas de droit d'entrée, pas de condition pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. L'exemple de l'âgé est bien sûr pour l'anecdote. Mais on peut se poser des questions quand on voit la situation de nos églises traditionnelles. Elles sont libres d'entrée comme de sortie, riches en possibilités intellectuelles, spirituelles, mystiques même pour certains. Elles apportent du sens, de la convivialité et du partage. On se demande si l'on répond bien à la convocation qui nous est adressée. On peut regretter d'avoir du mal à inviter ceux qui pourraient bénéficier de ce supplément d'âme. On voit des jeunes, ou moins jeunes, en mal de vivre, aller dans des communautés sévères et contraignantes. D'autres, pour pallier au manque d'amour et de fraternité qui marque notre époque, se réfugier dans les drogues dont ils ont du mal à sortir, et rarement sans séquelles. Bien sûr, la comparaison à l'Assemblée Générale de ce jour est un prétexte. Mais c'est l'occasion de rappeler une bonne nouvelle que l'on oublie à force de la banaliser. On avait oublié ce Dieu Père qui nous accueille avant même que nous le connaissions. Il a préparé à l'avance notre place. Avant que nous le sachions, il nous envoie son messager avant même que nous ne mettions en chemin vers lui. Ce Dieu qui seul guérit. Il guérit ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, parce qu'ils sont sourds. Ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'à lui, parce qu'ils sont estropiés et que leur pauvreté gêne. Ce Dieu miséricordieux qui, par Jésus, dit à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Il est impossible à l'homme de répondre à l'amour de Dieu par un amour semblable, mais il peut le manifester à ses prochains. Si Dieu m'invite à sa fête, alors je dois répondre simplement et me faire proche des autres enfants de Dieu. Le Seigneur vient me chercher, moi, personnellement, et je dois comprendre que je ne suis pas seul. Tout m'a été donné d'avance. Rien ne m'était dû. Oui, j'ai grand tort de ne pas répondre à une invitation si désintéressée. Oui, nous avons raison de ne pas banaliser l'invitation à la Sainte Cène. Vous êtes tous invités au repas du Seigneur. Et de ne pas la faire tous les dimanches pour lui garder son caractère exceptionnel. Le philosophe chrétien François Chapaz écrit « En un sens, l'écart est infranchissable entre Dieu et l'homme. Les médiateurs sont indispensables, surtout tels que celui que Jean annonce, comme la parole qui fait son entrée dans le monde, venant à la rencontre de l'homme. Ce Dieu tout autre vient dans notre histoire et veut nous inviter dans la sienne. Et comme je ne suis pas prêt à le rencontrer, il m'envoie son Fils. Jésus-Christ. Pauvre, estropié, aveugle et boiteux, je dois entendre l'urgente priorité de cet appel. Oui, ce serait une énorme erreur de ne pas comprendre l'immense présent qui nous est fait et de ne pas manifester notre reconnaissance. Que Dieu ouvre notre cœur et nos oreilles pour entendre son invitation. Amen.